Inter, le 18-20.
Bonsoir. La crise en Catalogne, les volontés d'indépendance de l'Écosse, d'une partie de la Flandre, la volonté d'émancipation financière de régions italiennes comme la Lombardie ou la Vénétie, poussée électorale indépendantiste en Corse. Les démocraties européennes connaissent un renouveau d'une poussée identitaire d'une partie de leurs citoyens. Pour certains, populisme et revendications indépendantistes sont les deux facettes d'un même malaise identitaire. Alors, question ce soir, d'où vient-il ce malaise? Pour quelles raisons certaines cicatrices du passé s'ouvrent à nouveau? L'Europe des nations telle qu'elle existe actuellement peut-elle encore constituer la seule réponse à ces revendications? Ou alors l'Europe d'aujourd'hui fait-elle partie du problème? Doit-elle se réformer pour tenir compte de ses aspirations? En clair, l'Europe a-t-elle besoin de nouvelles nations? L'idée d'une souveraineté européenne a été dite, expliquée par Frank-Walter Steinmeier, le président allemand, mais aussi Emmanuel Macron. Alors, question ce soir, ici en direct du Parlement européen, comment l'Europe doit-elle faire face aux revendications nationalistes et indépendantiste?
Le téléphone sonne, Europe. Stéphane Leneuf.
Et au 01 45 24 7000, nous retrouvons Sylvain qui nous appelle du Haut-Rhin. Bonsoir Sylvain, on vous écoute.
Oui, bonsoir. En fait, ma question est très simple. Est-ce que des régions européennes qui nourrissent des ambitions indépendantistes, notamment pour des régions financières et dont on pourrait mettre la solidarité en doute, en fait, est-ce que ces régions-là ont encore vraiment leur place en Europe?
Merci Sylvain de cette question. Vous nous appelez du Haut-Rhin. Pour répondre ce soir à vos questions autour de cette table, j'ai réuni Ingeborg Grässle, députée allemande du PPE. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Izaskun Bilbao, députée élue en Espagne, basque, de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et Christine Revaud-Allonne, députée socialiste française. Bonsoir.
Bonsoir.
Première question de Christian qui lie effectivement ses revendications indépendantistes et l'aspect financier. Ingeborg Grässle.
Je crois qu'il a raison, le monsieur. On ne peut pas demander faire partie de l'Europe quand on refuse la solidarité, même la solidarité dans un pays, la solidarité entre eux. Donc je suis tout à fait de cet avis-là. On ne peut pas faire l'Europe sans cette solidarité, même approuvée au sein du même pays. Je me rappelle avec horreur comment l'ancienne Yougoslavie a craqué. C'était autour de l'argent et on a des problèmes jusqu'à maintenant. Je crois qu'il faut vraiment bien examiner les vraies raisons d'une rupture au sein d'un pays.
Madame Bilbao.
Je crois que souvent, il y a une confusion des concepts. L'indépendance, la solidarité, les problèmes financiers. Je pense qu'il y a des tensions territoriales, pas seulement en Espagne. Il y a des tensions territoriales dans tous les pays européens. En Italie, l'Allemagne. C'est vrai qu'il y a un fédéralisme, mais il y a aussi des tensions territoriales. Je connais bien ces réalités parce que l'année 2008, quand j'étais présidente du Parlement basque, j'étais aussi la présidente du Parlement, de l'association du Parlement régional au niveau européen. Et je connais très bien l'Italie, les régions de l'Allemagne. Et souvent, j'écoute aussi, quand je parle avec des citoyens de la France, mais de différents lieux, qui disent que Il a arrivé le moment pour faire une distribution financière différente, pour donner des solutions aux citoyens, pour résoudre les problèmes plus proches. L'indépendance est une source, un concept, mais je pense que à ce moment-là, nous devons parler d'interdépendance, parce que aussi les États membres ont les conceptions de l'État, c'est pas la même conception que les derniers siècles. Mais c'est vrai qu'on doit faire la politique pour résoudre des problèmes territoriaux.
Christine Revaud-Allonne, derrière la question de Christian, c'est intéressant l'aspect financier parce que quand on parle de la Catalogne, on sait que c'est la région, entre guillemets, la plus riche d'Espagne, celle qui apporte beaucoup, beaucoup au PIB espagnol. Mais aussi, on l'a vu avec ces référendums en Italie, en Lombardie, en Vénétie, où l'aspect financier était fondamental. C'était on veut récupérer notre argent par rapport à Rome. Donc c'est fondamental aujourd'hui cet aspect financier. Dans les revendications indépendantistes.
Je ne suis pas sûre que ce soit le seul aspect, mais ce qui est clair, c'est que le principe de solidarité au niveau de l'Union européenne, on doit absolument le défendre et faire en sorte qu'il y ait une solidarité entre les régions pauvres et les régions riches, que ce soit au sein d'un État ou au sein de l'Union européenne en général. Mais ce qui est clair aussi, c'est que le travail que nous faisons au niveau européen se fait beaucoup avec les régions, parfois beaucoup plus qu'avec les États membres. Et accompagner ce travail de rapprochement entre les régions et l'Union européenne est absolument indispensable, peut-être pour arrêter d'avoir ces débats qui existent et qui sont posés, et qui sont posés d'une façon extrêmement claire au niveau de la Catalogne vis-à-vis de l'Espagne. S'il y avait un rapprochement plus clair entre la situation des régions et le niveau européen, on pourrait avancer. Mais pour ça, il faudrait qu'on avance davantage. Alors je vais dire un gros mot, hein, l'Europe fédérale, mais il n'empêche qu'on a ce sujet posé sur la question des États membres et sur question démocratique qui existe et qui est réelle au niveau des régions, qui existe au niveau des États et qui existe de façon un peu plus faible au niveau de l'Union européenne. Mais en termes de rapprochement des citoyens, peut-être qu'il faut qu'on travaille davantage cela, pas sur la question financière. La solidarité doit rester, c'est indispensable. Il y a trop de régions pauvres et ce serait absolument injuste, mais il faut avancer et prendre en compte la situation des régions.
Comment faire en sorte, justement, derrière ces revendications indépendantistes, de préserver, préserver cette solidarité financière qui, en fait, existe aujourd'hui depuis la création de l'Union européenne, Madame Gressler?
Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Les États ne peuvent pas exister sans la solidarité de leurs citoyens, de leurs régions. La question est de savoir comment ça se passe en réalité en Allemagne. Dans ma région, le Bade-Württemberg, ça marche très bien. Mais nous, on a une espèce, on appelle ça en allemand Finanzausgleich, donc c'est l'équilibre entre les États, entre les régions en Allemagne. Et après avoir fait l'équilibre, on note que ceux qui donnent, ils ont moins que ceux qui reçoivent. Et c'est ce qui ne va pas. Mais c'est pas si facile que ça. Alors il faut se mettre d'accord, il faut trouver une solution. À mon avis, c'est absolument invivable, insupportable, que les uns croient qu'ils peuvent avoir plus sans les autres. Je crois que c'est un concept d'antan, c'est vraiment révolu. Maintenant, il faut se mettre ensemble, il faut trouver des solutions. Et ce qui me choque dans ces discussions-là, qu'on n'arrive plus à... qu'on a affaire avec des extrémistes et qu'on n'arrive plus à avoir des solutions. Je crois que là, il faut mettre en garde ce qu'on voit avec la Catalogne, avec la Lega Nord, dans d'autres parties, bon, en Belgique aussi. C'est un rêve que les uns puissent exister sans les autres. Je crois qu'on est riche aussi dans un pays parce que c'est les conditions qu'on a tous créées tous ensemble. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Le plus clair qu'on est, le moins de problèmes on a après.
Au standard 01 45 24 7000, on retrouve Bernard qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Bernard, on vous écoute.
Bonsoir, je remercie d'avoir pris ma question. Alors, une petite remarque tout d'abord, les dirigeants européens pensent l'Europe essentiellement en termes économiques. Or, l'attachement à une région, ou à la nation, ou à l'Europe, est un phénomène psychique très complexe. Ne pensez-vous pas que les dirigeants européens devraient abandonner un petit peu plus le tout économique et s'ouvrir un peu plus sur d'autres disciplines comme la sociologie ou voire la psychanalyse? Il y a un livre d'ailleurs sur l'Europe et le phénomène régional et national qui vient de paraître, qui s'appelle « Compétitivité, mercantilisme et guerre économique », qui pourrait éclairer un petit peu les dirigeants européens sur ce phénomène qui semble vraiment les dépasser aujourd'hui.
Merci Bernard pour votre question et témoignage, Christine Revaud-Dallon.
Oui, il y a absolument d'autres aspects que la question économique, c'est évident. Mais en même temps, on ne peut pas s'en soustraire et on ne peut pas considérer qu'on va mettre ça de côté et puis considérer que des régions seraient légitimes à demander une indépendance et donc s'abstraire de la solidarité. Donc sur ce point de vue-là, on ne peut pas la mettre de côté, mais il faut tenir compte des autres éléments. Et ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que sur tout un tas de dossiers, de projets qui sont portés par les régions, les collectivités, les élus qui sont plus proches des citoyens, ils sont portés directement au sein de l'Union européenne et il y a ce travail direct qui est fait sans passer forcément par les États membres. Et cette connexion, ce rapprochement et le fait qu'il y ait tellement de points communs entre comment fonctionne une région, quelle qu'elle soit au niveau de l'Union européenne, et le fonctionnement de l'Union européenne nous interpelle. Et encore une fois, on le voit beaucoup dans notre travail parlementaire, beaucoup de dossiers avancent, on arrive à trouver des voies de passage au sein du Parlement européen avec la Commission, on arrive au niveau du trilogue, le Conseil des États membres, paf, c'est bloqué. alors qu'on a ce travail et ce travail démocratique avec les régions. Donc je crois vraiment que ça doit nous interroger, pas d'une façon à faire la révolution, c'est absolument pas ce que je dis, mais de tenir plus compte des régions qui sont très actives, et on le voit dans le comité des régions, et on a un travail très intéressant avec eux, pour qu'il y ait quand même une évolution entre le rôle des États membres et le rôle de toutes les régions en Europe.
Alors Madame Milbao, comment l'Europe doit-elle se réformer? Parce qu'il va falloir peut-être qu'elle se réforme aussi dans l'appréhension de ces phénomènes identitaires, de ces phénomènes nationalismes. Vous avez vraiment, vous êtes au cœur du problème au Pays Basque. Comment vous avez réussi à articuler effectivement cette nécessité de reconnaître une identité forte et puis qui s'est articulé au niveau européen?
Mon parti politique qui est maintenant, nous sommes dans les gouvernements basques, nous sommes très très européistes parce que j'ai une affiche ici de 1933. Notre affiche c'était Europe, Pays Basque, Euskadi. Nous avons beaucoup travaillé à l'origine de ce projet européen. Mais pour nous, c'est compatible. C'est l'euro du peuple. Maintenant, personne connaît, tout le monde a oublié ces mots. Peuple. L'Europe du peuple. Maintenant, ce sont l'Europe des nations. Et je pense que nous devons récupérer ça. Et souvent, nous écoutons ici, l'Europe, c'est diverse. La diversité culturelle, la diversité politique, la diversité économique. Mais à la fin, nous ne sommes pas capables de gérer bien toute cette diversité. Au Pays Basque, nous avons une situation maintenant tranquille. C'est une bonne situation pour nous. Vous savez que nous avons beaucoup souffert avec le terrorisme de TA. Mais nous avons une chose qui est différente. Nous avons les concerts économiques. Ça nous fait responsables de notre impôt. Mais nous avons...
On en revient encore une fois à la gestion financière, au problème de l'argent, qui est quand même le nerf de la guerre, effectivement.
Oui, nous faisons notre gestion financière. Mais tout le monde pense que c'est une question de privilège. Oui, quand les choses elles marchent bien, tout le monde pense que nous avons beaucoup d'argent. Mais nous avons passé des crise économique terrible. Et quand nous avons les crises économiques, l'État espagnol nous ne donne pas d'argent. Pour ça, nous devons penser de quelle façon guérir la situation, de quelle façon nous devons créer l'emploi, soutenir aux citoyens. Et les concerts économiques, c'est un système de responsabilité qui incorpore aussi un système de solidarité avec tout l'État espagnol. Je veux dire qu'il y a aussi des systèmes, ça c'est une bonne pratique, un bon outil que ce serait possible d'utiliser dans tous les États membres, dans tous les lieux, dans toutes les places dans lesquelles on peut avoir une tension et un problème politique. Et l'Europe, on doit regarder aux régions, parce qu'il y a un niveau d'État membre, dans tous les rapports, nous disons, oui, c'est très important les travaux de région, parce que ce sont très proches des citoyens. Souvent, ils donnent des réponses meilleures que l'État membre, mais à la fin, il n'y a pas une reconnaissance. Et je pense que nous croyons dans une Europe fédérale, avec des institutions fortes, avec un Parlement fort, avec un gouvernement européen fort, dans lequel les États membres et les régions, je pense que dans cette évolution, on arrivera presque au même plan.
Oui, mais à un moment donné, il faut un processus de décision. Un État fédéral, ça ne peut pas descendre vraiment... je veux dire, prenons le cas de l'Allemagne. On est dans un État fédéral, effectivement, mais les États, les Länder n'ont pas forcément les pouvoirs... ces pouvoirs s'arrêtent à un moment à un certain niveau, Madame Grassley. Expliquez-nous.
Absolument. Ça doit s'éteindre là.
Quels sont les rapports des Länder avec effectivement, les institutions européennes? Est-ce qu'ils peuvent agir directement ou est-ce que ça passe forcément par l'État fédéral?
C'est-à-dire que ça passe par l'État fédéral, mais les Länder, ils sont souvent responsables de l'administration. Par exemple, la politique agricole, ça se passe à travers les Länder, et là, les Länder ont même des possibilités de faire certains choix. Mais bien sûr, c'est l'État fédéral qui négocie tout à Bruxelles. Et je dois dire que parfois l'État fédéral allemand négocie de manière que pour barrer la route à toute liberté régionale. Ils veulent une unification des politiques européennes. Ils ne veulent pas donner la marge de manœuvre que le droit européen prévoit pour les régions. Et ça, je le regrette. Et souvent, on a beaucoup d'ennuis avec ça. C'est-à-dire, à mon avis, pour faire une vraie décentralisation, il faut aussi encourager les États membres d'avoir le courage de donner un peu d'espace aux régions. Ça, c'est souvent pas le cas. Dans le cas espagnol, moi, comme contrôleur budgétaire, ce que je remarque, c'est que l'État fédéral espagnol n'a pas beaucoup de droits sur les régions. Les régions en Espagne sont très indépendantistes déjà et très indépendantes au point que l'État fédéral espagnol n'arrive pas à s'imposer avec certaines prescriptions que le droit européen veut imposer sur l'administration, par exemple. Ça nous ennuie beaucoup dans le contrôle budgétaire avec un taux d'erreur très élevé et l'endettement des régions. Alors l'indépendance dans le choix des projets et des choix vraiment qui sont superflus. On a en Espagne, on a plein d'aéroports dont personne n'a besoin vraiment. Alors ce genre de décision, on aurait quand même pu avoir de meilleurs résultats avec un peu plus d'influence centrale. Mais une chose est claire, que il faudra repenser une vraie régionalisation de l'Europe, ça c'est sûr. Et là, il faut avoir le courage de le penser sans avoir peur d'inciter toutes sortes de mouvements indépendantistes.
Christine Revaud-Allonne, une vraie régionalisation de l'Europe en France, ça s'annonce quand même compliqué. Même si les régions aujourd'hui ont acquis une certaine autonomie par rapport aux fonds structurels, par rapport aux fonds européens,
mais
dans leur gestion.
Mais pour arriver au parachèvement de cette régionalisation globale, il faut qu'il y ait un réel système de solidarité juste qui soit fait au niveau européen. Et pour l'instant, on n'y est pas prêt. Donc tant qu'on n'a pas cet achèvement possible, les États membres, les États-nations restent un peu la protection. Mais ça ne peut pas durer. Enfin, comme je le disais, on a trop de difficultés à être efficace au niveau européen sur un certain nombre de législations. Et soit on veut avancer vers une Union européenne réellement en capacité d'agir face à d'autres États forts comme ce sont les États-Unis ou la Chine, ou alors on continue sur ce système très bancal tel qu'on le connaît. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces protections. Et encore une fois, on voit des demandes très fortes. La Catalogne aujourd'hui, nous avons la Corse ou encore la Bretagne. Mais il y a des situations au niveau, désolé de le dire, économique, mais moi je pense aussi aux questions sociales. Les situations des gens ne sont pas les mêmes et on ne peut pas les laisser seuls. Il faut qu'il y ait le principe. Nous, on appelait ça l'état prévoyance en France. C'est un système qui est important. Si on pouvait l'adapter au niveau européen, ce serait parfait. Mais on n'en est pas encore là. Quand on voit tous les sujets qui sont sur la table sur la question du pilier social et comment on n'avance absolument pas parce qu'un certain nombre d'États membres sont hostiles à ces sujets-là, on n'est pas prêt à ça encore. Donc on a besoin de cette protection nationale.
On retourne au standard au 01 45 24 7000. Fabien, vous nous appelez de Brest. Vous êtes en Bretagne, Fabien. On vous écoute.
Oui, bonsoir. En fait, je partageais une réflexion. Je pense que l'absence de projet digne de ce nom en matière culturelle, en matière éducative, même si il y a des échanges, notamment des étudiants avec Erasmus, mais c'est quand même pas à la hauteur des enjeux. Et aussi sur les questions sociales, la représentante française vient d'en parler. Je pense que l'absence de projet commun sur toutes ces thématiques fondamentales qui fondent le vivre ensemble d'une société, qui fondent des questions centrales dans la manière de partager un projet commun et de se projeter comme ça vers le futur d'une société, et d'avoir finalement concentré l'Europe uniquement sur des questions, principalement sur des questions économiques, financières et peut-être à l'avenir des questions de défense, je pense que ça ne fédère pas et que c'est sans doute responsable aujourd'hui du fait de se retrancher pour certains peuples vers des identités régionales fortes, vers des relents nationalistes ou régionalistes.
Merci pour votre témoignage, Fabien, Madame Bilbao.
Je dois dire que je suis d'accord. Les régions, on doit gérer pas seulement une question économique, aussi les questions sociales, l'Erasmus. Et je pense, excuse-moi, que je parle encore une fois de la société basque de notre région, parce que nous avons, par exemple, un échec scolaire maintenant de 7,6%. L'Europe, en général, il y a un 11%. Et il y a des régions en Espagne qui a 29%. Pour nous, la culture, l'éducation, c'est une priorité. La question sociale aussi. La région basque, c'est la région qui a plus de budget pour la question sociale, pour accompagner à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la crise économique. Et pour nous, ce système social a évité ou a travaillé, a été un outil impressionnant pour obtenir une cohésion sociale, une société avec une classe moyenne importante. Maintenant, nous avons dans les parlements européens les débats sur les piliers sociaux, mais a été une revendication de mon parti politique aussi dans le groupe ALDE, qu'il y a des libéraux et des démocrates. Nous avons défendu ici, il y a 8 ans que je suis ici, un minimum, revenu minimum pour toute l'Europe. Nous l'avons, il y a 26 ans au Pays Basque, et a été un système efficace pour accompagner à toutes les personnes qui ont des problèmes et pour accompagner pour trouver un travail. C'est un système efficace. Pour ça, je suis d'accord et je pense que les régions ont plus des outils, plus des outils pour faire ce travail parce qu'ils sont plus proche des citoyens. Et par rapport à la situation des régions en Espagne, vous avez mentionné l'aéroport. C'est une compétence du gouvernement espagnol. Ce n'est pas une compétence de région. Pour ça, s'il y a beaucoup d'aéroports au niveau espagnol, c'est la responsabilité du gouvernement espagnol. Pour nous, ce n'est pas un modèle soutenable parce qu'il y a des petites régions que personne n'utilise pas. Mais ce n'est pas la responsabilité des régions. Les contrôles budgétaires, le gouvernement espagnol, maintenant, avec la supervision, il a décidé, avec l'emploi et avec le budget régional, de faire un contrôle pour les régions qui ont une situation pire. Si le gouvernement espagnol n'a pas une situation bonne, peut-être on doit poser la question si... Non, sera parce que il y a d'informations toutes les semaines, tous les mois, pendant toutes les dernières années, que c'est un système de corruption inacceptable. Et ça, c'est pire pour un État membre. Quand nous parlons la réalité des États membres et les contrôles budgétaires, nous devons parler aussi de cette question. Parce que c'est impressionnant en Espagne. Nous sommes contre ça. Nous sommes une région avec une dette. Niveau de dette assez basé, parce que nous avons un système de responsabilité. C'est notre maison, c'est notre argent. Et personne ne nous donne quand nous avons des problèmes. Mais chacun la responsabilité. Et je suis d'accord, on doit faire un on doit être, les États membres, on doit être plus offensif sur
la décentralisation pour aller encore plus loin.
Décentralisation, parce que je crois que donner des responsabilités aux régions, aux personnes et aux autorités régionales, ça serait mieux pour les projets européens. Et à la fin, il y a un concept très important, la conception de la vitale bilatéralité. Si je donne la responsabilité, je dois respecter les compétences. Et c'est un autre problème en Espagne.
Alors, on a bien examiné une chose, c'est l'aspect financier, c'est-à-dire effectivement, il y a un besoin, il y a une demande de gestion financière, d'autonomie financière au niveau des régions, mais est-ce que finalement, l'éparpillement en fait des États, si l'Europe se réforme et qu'il y a un éparpillement des États avec effectivement un État catalan indépendant, pourquoi pas dans l'avenir un État corse indépendant, une Lombardie indépendante, est-ce que cet éparpillement finalement des nations, ça fait la force de l'Europe?
Je vais dire une chose. Luxembourg, il y a 60 000 habitants. La Catalogne, il y a 9 millions.
Je parle de l'éparpillement. Est-ce que...
Oui,
si,
mais...
Si demain, je crois que c'est Jean-Claude Juncker disait qu'il ne voulait pas une Europe de 95 États, mais si demain il y a 50 États aujourd'hui, est-ce que finalement cet éparpillement fait la force de l'Europe?
Mais ça dépend si on parle d'État ou si on parle de région. Et si on parle de région...
Parlons d'État, puisqu'il y a clairement des revendications nationalistes.
Oui, mais ça, c'est pour ma part, il y a les États tels qu'on les connaît, il y a les régions et il y a l'Union européenne. Et aujourd'hui, ceux qui ont le grand pouvoir, ce sont les États. Parce que, encore une fois, à chaque fois, les décisions, elles sont prises ou pas. Et en ce moment, c'est beaucoup ou pas. Parce que le Conseil des États membres des 28 ou demain des 27 n'arrive pas à se mettre d'accord et bloque. Et tous les jours, on voit la presse, on entend la radio, on voit à la télé. L'Europe bloque. Oui. Mais au Parlement européen, on avance. La Commission européenne fait des propositions. Au niveau des régions, ils sont très actifs dans le comité des régions et ils avancent. Donc on a un vrai sujet par rapport à la légitimité démocratique des États membres qui sont aujourd'hui dans un système qui a, encore une fois, sa pertinence, et notamment sur les sujets sociaux. Mais en termes de démocratie, il va falloir avancer. Et avancer, c'est donner plus de force au niveau européen, au Parlement, à la Commission européenne, et que les États membres acceptent, enfin, qu'il y ait des compétences déléguées au niveau européen, des compétences déléguées au niveau régional. Et qu'on fonctionne de cette manière-là.
Quel type de
Dès lors qu'on aura mis en
quel
place
type de compétences,
la solidarité.
On va mettre le côté financier puisqu'on vient d'en parler.
Et la solidarité. Parce que pour moi, ce n'est pas la question financière, c'est la question de la solidarité. C'est indispensable.
Quel type de compétences aujourd'hui on a au niveau européen qu'il faudrait décentraliser auprès des régions?
Quelles compétences on a aujourd'hui au niveau des États membres qu'on pourrait mettre au niveau de l'Union européenne?
Déjà au niveau des États membres,
déjà à ce niveau-là, il y a tellement de sujets sur la question qui est un sujet majeur de l'accueil des réfugiés. Pourquoi faut-il encore avoir l'autorisation des États membres? Pourquoi on ne pourrait pas avoir la décision qui a été votée au Parlement européen sur proposition de la Commission européenne et ensuite avec la déclinaison pour l'accueil réel des réfugiés par les régions? Ça pourrait être fait.
Les régions
ont
les moyens
pas
aujourd'hui sur un tel sujet, effectivement, de débloquer
les
de
régions
l'argent.
Qui ne l'ont pas, il faut mettre un système de péréquation entre les régions. Parce qu'il ne faut pas mettre de côté les régions les plus pauvres. C'est indispensable qu'elles puissent toutes avoir ce principe de solidarité et accompagner tout le monde. Mais on a vraiment un problème d'absence d'efficacité et d'absence de protection parce qu'on a ce blocage du Conseil avec cette règle des 3/5 sur tout un tas de sujets sur lesquels, au Parlement européen, on est capable de voter. La Commission avance.
Madame Grasselin,
ça n'a pas marché au niveau national, ça ne va pas marcher sur le niveau régional. Alors, je voudrais revenir...
On a déjà du mal à se mettre d'accord à 27, alors
oui,
si
voilà,
effectivement...
C'est ça. Alors, il faut à tout prix éviter que les États membres en Europe qu'ils craquent, qu'il y ait encore d'autres... des États dans les États, parce qu'il ne faut pas sous-estimer, après, le sable jeté dans la moteur. On sera tous bloqués avec des questions, comment organiser qu'une région parte d'un État membre. Et après, ce n'est pas automatique d'être membre de l'Union européenne. Je crois que ce sera le blocage total, même pour la région qui veut quitter l'État membre. Je crois qu'il faut être raisonnable. Ce n'est pas une solution. Ce qui m'inspire l'horreur jusqu'à maintenant, c'est comment la Yougoslavie a craqué et qu'on a maintenant sept États indépendants qui n'arrivent
dont
pas à coopérer.
Dont certains sont aujourd'hui dans l'Union européenne.
Oui, deux. Oui. Bon, les deux les plus riches.
Slovénie et Croatie.
Oui, c'est ça, les deux les plus riches. Et les autres, ils sont dans un état désespéré. Et je vous assure, la région qui part en Europe d'un État membre sera dans un état désespéré. Il ne faut pas se faire de faux espoirs. À mon avis, ce qu'on voit déjà maintenant en Catalogne, c'est que les entreprises quittent, qu'il y aura des répercussions graves. Et je crois qu'on a autre chose à faire que d'organiser ce genre de chaos. Il faut vraiment être raisonnable, il faut trouver des solutions pour ce genre de conflit. Alors, faire un État indépendant, ce n'est pas une solution. Ça ne crée que des problèmes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va devenir le reste de l'Espagne? Ça va continuer et tous ces États qui naissent là, de toutes ces régions, ils pourront pas survivre ni économiquement, ni dans un État. On ne fait que créer des problèmes. Et le Luxembourg, je ne suis pas sûre que c'est une vraie comparaison, parce que le Luxembourg a été, c'est ça, le Grand-Duché, c'est ça, un pays depuis très longtemps. je crois que l'Europe, c'est l'occasion pour surmonter ces conflits régionaux. C'est une manière de faire disparaître ces conflits si on en a fait des procédures intelligentes. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas grâce à la culture ou avec le social qu'on pourra résoudre ça.
Madame Bilbao.
Je vais dire des choses. C'est vrai que les régions, souvent, nous avons des réponses que les États membres n'ont pas la réponse. Avec l'immigration, nous, par exemple, nous avons mettre toutes les installations, toute la politique du Pays Basque. Nous avons construit un système avec toutes les institutions, tous les agents qui travaillent avec les questions sociales, et nous avons demandé au gouvernement espagnol que nous sommes prêts d'accueillir beaucoup ou plus d'immigrants, et nous n'avons pas pourquoi, parce que l'État espagnol n'est pas capable d'accueillir. Nous devons avoir son acceptation, mais nous avons la possibilité d'accepter d'immigration et résoudre les problèmes européens. À travers de la région, nous pouvons résoudre. Et en Europe, il y a beaucoup de régions comme les Pays Basques. La seconde question, les modèles, si le Luxembourg, il y a beaucoup d'années, on peut parler de Malta. Malta, combien de habitants? Et ici, le débat n'est pas indépendant. Oh oui. Le débat, pour moi, c'est que nous travaillons maintenant un nouvel modèle au niveau européen avec des institutions fortes qui ont chaque fois plus de compétences.
Ça signifie, Madame Bilbao, que la revendication indépendantiste de la Catalogne et d'un certain nombre d'autres régions aujourd'hui en Europe, c'est pas le bon débat politique pour effectivement avancer sur plus d'autonomie, plus de pouvoir politique au niveau local dans une Europe qui pourrait être fédérale, effectivement.
Non, mais je dois dire qu'en Catalogne, tout le monde pense que c'est la folie de la Catalogne pendant les derniers ans. Mais c'est une histoire de 10 ans. Le gouvernement espagnol, il n'a pas donné les réponses politiques nécessaires.
Que vous avez eu au Pays Basque. Est-ce que vous avez eu les réponses politiques
La solution qui a demandé, parce qu'il y a 10 ans, le Parlement de Catalogne, il a déjà fait une modification de son statut d'autonomie. Mais le successif gouvernement espagnol a dit non. Je vais dire un petit détail. Le Parti populaire, après l'approbation de cette réforme du statut d'autonomie, il a accueilli des signatures pour poser plainte au cours constitutionnel. Et à la fin, tout le temps, le gouvernement espagnol a dit « Non, vous n'avez pas de revendication, non, il n'y a pas de solution, non, vous devez rester... »
Donc le refus systématique du gouvernement espagnol sur toutes les revendications des Catalans, c'est cette situation, on a abouti à cette situation en raison de ces multiples refus.
Je pense que tout le monde est arrivé à la situation extrême parce qu'il n'y a pas des réponses du gouvernement espagnol.
Est-ce que ça signifie aujourd'hui que des pays comme l'Espagne, dans une Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, doivent se réformer, devenir pourquoi pas un État fédéral, peut-être même aussi pour la France? Christine Revaud-Allon.
Je suis tout à fait d'accord aussi pour la France.
Pour la France, on a pas mal avancé en termes de décentralisation, mais on achoppe toujours sur la question de la solidarité entre les régions et on a quand même...
Oui, on en revient toujours au problème de l'argent. On a un problème de solidarité déjà au niveau européen.
C'est un problème de solidarité entre les régions dans un État et donc a fortiori au niveau de l'Union européenne. Donc c'est cette question-là, elle doit être vraiment réglée parce qu'on a des bassins d'emploi formidables et donc où il y a une certaine richesse et puis des zones qui sont extrêmement précaires. Donc il faut s'interroger là-dessus et je pense que le niveau européen peut être le bon niveau d'échange avec les régions sur ces questions-là. Et quand je parle du rôle des régions, je ne suis pas en train de dire que je veux des indépendances de plein de petits États. C'est vraiment la question de la région. Après, l'évolution de comment on met les États membres dans le dispositif qui est aujourd'hui tripartite, États membres, Commission, Parlement européen, c'est autre chose. Mais encore une fois, il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on ne va pas assez vite et que c'est vraiment par rapport à ce système fonctionnel-là.
Comment est-ce qu'on construit l'Europe de l'avenir sur des revendications nationalistes?
Les nationalistes de l'État.
Madame Bilbao.
Mais quand nous parlons de nationalisme, nous parlons par exemple de nationalisme catalan, nationalisme basque, mais jamais nous parlons de nationalisme espagnol. Le nationalisme, c'est... il y a un mélange des concepts. L'extrémisme au niveau européen, c'est pas bon pour la politique. Et nous avons beaucoup d'histoires aussi, ici au Parlement européen. Mais qu'est-ce que veut dire être nationaliste? Dans notre cas, avoir un sentiment d'identité lié à notre pays, à notre région, à notre langue, à notre culture, à notre histoire, à notre industrie, d'accord. Mais ce n'est pas la même conception nationaliste que nous utilisons ici au débat au niveau européen. Est-ce qu'en espagnol, il n'y a pas un sentiment nationaliste espagnol? De quoi parlons? Oui, oui, de quoi parlons? Ça, c'est le problème.
C'est la question de l'avenir quand même pour l'Europe. C'est la question de l'avenir pour l'Europe. Comment on construit une nouvelle Europe à partir de revendications de sentiments nationalistes?
Je pense que nous devons construire l'Europe avec l'incorporation de toutes les identités culturelles et tous les sentiments et toute la diversité. Parce qu'il y a aussi un problème de langue. Aujourd'hui, j'ai entendu avec les films de Samu, au président Tajani, qui dit « Nous devons faire l'incorporation, nous devons comprendre la diversité. » Mais quand nous sommes ici au Parlement européen, pas la diversité. Parce que nous avons demandé au président Tajani, par exemple, la possibilité de faire un accord avec le gouvernement espagnol pour que moi, je peux parler en basque au Parlement européen. On peut parler en basque, on peut parler en catalan et des autres langues au niveau européen dans le comité des régions. Et dans cette institution très diverse, très plurielle.
On parle beaucoup anglais aussi.
C'est pas possible. Oui, mais
il y a des langues officielles. Les traités ont donné un certain nombre
mais pour
de
nous,
langues officielles.
Les basques du PNV, le français, c'est aussi notre langue. Parce
que nous
avons un côté basque-français. Oui, c'est notre langue aussi.
Merci à toutes les trois. Ça sera le mot de la fin. Merci à Stéphanie Texier, à la réalisation à Paris, assistée d'Amélie Stadelman et toute l'équipe ici pour la réalisation technique ici à Strasbourg. Dans un instant, il sera 20h sur France Inter.